Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Pierre Jabot assisté de Karen Day, avec Mathias Alléon et Dimitri Gronoff à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, nouvelle expulsion d'un bidonville de Rome à Paris, c'était mercredi dernier, et Mustapha Bellocine, auteur du journal sociologique d'un précaire par lui-même.
Il y a le bidonville depuis 25 ans. On a construit un projet pour faire des petites maisons normales et puis bien expulser.
Ce qu'on ne peut pas taire, il faut l'écrire. Il me semble que c'est ça. Il faut l'écrire et ouais, j'ai pris le parti d'écrire.
Ah, B, t'as déjà fait le début, ouais. Là, c'est quoi, là?
Ah, si, j'ai
c'est
calme,
P,
là.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, la bruit qui court?
Aujourd'hui, croisez deux histoires qui n'ont rien à voir mais qui sont deux exemples assez symptomatiques de notre temps, de cette époque qui se débat vraiment, mais pas vainement. Car il y a comme un bruit qui court que tous ne se résignent pas à subir, malgré les rappels à l'ordre de la dure réalité, que ce soit de la crise, de la guerre contre le terrorisme, du chômage, du mal logement. Je vous laisse le soin de compléter la liste de nos impératifs catégoriques. Deux exemples donc qui racontent ce même refus de subir encore et encore. Antoine est allé rencontrer Mustapha Bellocine, formé dans l'élite de la sociologie française, à l'EHSS, a étudié le corps social, ses dynamiques, ses blocages. Sauf que là, le sujet de son étude, c'est lui. Il l'explique en couverture de son livre témoignage, précaire, qui, je cite, nous raconte en aventure picaresque la vie d'un petit soldat réfractaire de l'ordre de l'armée de réserve du capital, lui-même apprenti sociologue consignant son quotidien pour survivre à la vieille exploitation moderne. Ou comment comprendre le mécanisme pour ne plus les subir. C'est aussi ce qu'ont fait des Roms à Paris, lassés de leur xième expulsion qui avait commencé depuis leur bidonville et avec d'honnêtes riverains français, prendre en main leur destin avec un projet, construire pour ne plus subir. Malheureusement, les autorités en ont décidé autrement. Charlotte va nous expliquer la situation, mais faites attention, chers auditeurs, car ne l'oubliez pas, ce proverbe paraît-il catalan, expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Alors excusez-vous et expliquez-nous, c'est comme un bruit qui court sur France Inter jusqu'à 17h.
Antoine Chao,
Charlotte Berry,
comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Alors là, on est sur le boulevard Ney, c'est ça?
Voilà, donc on est juste à la limite de la petite ceinture. Ça fait tout le long, du coup, ça part de cet endroit-là, là, au milieu de la petite ceinture, jusqu'au pont des Poissonniers, jusqu'au bout là-bas.
De l'autre côté des grilles, sur les rails, en fait.
Voilà, c'est sur les rails, ils ont installé leur cabane. Au fur et à mesure, ils ont monté le long des rails de la petite ceinture.
Et de part et d'autre des rails, en fait, il y a peut-être un mètre. Et des cabanes des deux côtés, mais alors, c'est vraiment de briques et de brocs, des bâches.
C'est du bois, de la tôle, des bâches. Bon, après, ils ont installé des poêles, donc il y a un risque aussi d'incendie, parce que du coup, c'est pas très sécurisé.
Ça sent la fumée et puis on voit les...
Ouais, c'est très précaire. Ouais. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Enfin, il y a un groupe électrogène du coup qui marche pour une partie du campement. Mais il n'y a pas d'eau, ouais. Pas d'eau potable.
Il y a combien de personnes qui vivent là?
À peu près 400 personnes et une centaine d'enfants. Donc là, on arrive au milieu du plat, donc là où on entre. Il y a une petite échelle en bois. Faire attention en descendant parce que c'est pas très stable. Et on arrive juste devant la maison des enfants, du coup, tu vas voir, que les habitants ont construit pour nous. Au début, on a commencé l'école dans la rue, vraiment sur les rails, avec une table. Et maintenant, on a un espace pour nous qui nous est dédié, du coup, qui ferme à clé à chaque fois.
Le plat, ouais, c'est le bidonville.
Le plat, c'est le bidonville. C'est le mot qu'ils utilisent, eux, pour désigner le bidonville.
Ouais. Toi, tu t'appelles comment?
Louisiane. Je suis bénévole à l'école dans la rue depuis mars 2015. On va descendre?
Ouais, je te laisse passer.
J'essaie de poser un pied là, puis après là.
C'est des planches de bois, c'est très raide.
Salut! Thé, café, pour commencer.
Distribution de thé et de café.
Salut!
Bonjour!
Il est 19h et les enfants du bidonville de la porte de Clignancourt partagent le thé avec les bénévoles de l'association L'école dans la rue. Depuis le mois de juin, 60 familles roms sont installées ici, sur cette parcelle de l'ancienne voie ferrée du nord de Paris. Mais la SNCF, propriétaire des lieux, a porté plainte. Et en septembre, la justice a ordonné l'expulsion. Et malgré l'appel qui est en cours, la préfecture de Paris veut à tout prix maintenir l'évacuation. Cette histoire, ça fait 25 ans qu'elle dure. 25 ans qu'en matière de résorption des bidonvilles, la politique nationale consiste à expulser systématiquement les familles, à leur proposer quelques nuits d'hôtel, puis elles retournent à la rue, rejoindre un autre bidonville ou reconstruire des cabanes sur un nouveau terrain. En 2015, plus de 11 000 Roms ont ainsi été évacués de force. Une politique coûteuse et inutile, puisqu'elle ne résout rien au problème. Pire, elle aggrave la précarité de ces populations et abolit tout le travail de scolarisation et d'assistance médicale mené par les associations. Alors pour sortir enfin du cercle infernal des expulsions à répétition, une partie des habitants du bidonville se sont constitués en association, les bâtisseurs de cabanes. Et avec l'aide d'architectes, ils ont élaboré un projet d'habitat qui leur permettrait enfin de s'extraire de l'extrême précarité. Mais pour mener à bien ce projet, les habitants demandaient un délai de quelques mois avant leur expulsion. Récit de cette lutte des Roms pour sortir du bidonville qui commence par l'apprentissage et la scolarisation des enfants. Ça va alors ?
C'est bien coloré.
Là, tu fais les lettres de l'alphabet ?
Oui. A, B, C, D, U, E. Oh, mon colmate grand. C'est joli ça ?
Très joli.
Merci.
Tu t'appelles comment ?
Larissa.
Tu as quel âge ?
7 ans.
Tu vas à l'école ?
Oui. Moi, elle est oui. Et le saut. Moi, j'ai allé à la piscine.
À la piscine ?
Oui. C'est bien la piscine. Oui.
Et oui. Zoubla.
Et tout ça, c'est des enfants qui vont à l'école dans le quartier ?
Pas forcément tous, parce qu'il y en a sur les une centaine, il y en a 20 qui vont à l'école. Il y en a une trentaine dont on attend encore des rendez-vous. Enfin, il y a des rendez-vous en cours pour les scolariser. Donc c'est vraiment en train de se passer. Oui, c'est bien, mais tu peux continuer là. Tu as déjà fait le début. Ouais. Là, c'est quoi là ? C'est P. P. Ouais.
Il y a du bruit, il y a plein de monde qui passe, il y a des gens qui crient. Oui.
Du coup, on est au milieu des maisons, donc il y a les parents aussi qui arrivent, qui font la cuisine. Ça, c'est, voilà, il y a beaucoup d'agitation autour. Ouais. Bah, mets-toi là, regarde. Elle me pique tout ce qu'il y a dans mes poches. La dernière fois, elle a pris mon sac, elle est embarquée.
Ah, à l'entrée là-bas ?
Oui, oui.
Je vais aller voir. Excusez-moi. Possible de savoir un peu ce que vous faites ?
On travaille pour la mairie de Paris, pour les solutions d'hébergement, donc pour essayer de mettre en adéquation les familles avec les propositions hôtelières. Elle est enceinte, cette dame, non ? D'ailleurs, hein ? Ok, donc on viendra vous voir. Hein. Donc là, on a un recensement complet et on a listé les points qui peuvent faire problème au moment d'une évacuation.
C'est quoi les points qui peuvent faire problème ?
Par exemple, c'est un couple dont la femme est mineure. Le SAMU social ne l'acceptera pas, sauf s'il y a des papiers de mariage. Parce que sinon, pour eux, c'est une mineure qui est sans représentant légal. Donc ils risquent de proposer une solution pour l'homme et une solution pour la jeune femme. En considérant qu'elle est mineure, et donc c'est les séparer. Donc nous, on vient vérifier un petit peu si c'est exact ou pas, et à partir de là, on ajuste.
Là, ce qui se passe, c'est que ce bidonville-là va être expulsé.
Oui, les gens vont être expulsés, oui.
Donc ça, c'est sûr.
Oh oui, c'est sûr, oui. Ben, cette semaine, hein, donc dans 2 ou 3 jours. Hein.
Il y en a beaucoup comme ça, des bidonvilles sur Paris aussi ?
Non, c'est le seul. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de terrains qui permettent ça à Paris. Hein. en situation intramuros.
De déloger les gens comme ça en plein hiver, c'est pas un peu problématique pour eux ?
Si, c'est problématique, mais en même temps, le risque d'incendie, il est aussi majeur. C'est pour ça que la décision est prise, elle est irrévocable.
Ça doit coûter cher quand même de reloger comme ça tous les gens à l'hôtel.
Ça coûte de l'argent, oui. Oui.
Vous avez bon, une c'est idée pas...
Ben, c'est difficile à dire, on verra combien il y a de gens au final qui seront là le jour de l'évacuation. L'objectif c'est de réduire les nuitées hôtelières parce qu'elles ont atteint un seuil assez énorme. Hein.
Bonjour.
Ça va ? Deux, trois jours, c'est fini. Hein.
Deux, trois jours, c'est fini.
Ouais.
Ouais.
Les familles à l'hôtel. Hein.
Non, hôtel, non, hôtel.
On en a parlé vendredi déjà.
Non, hôtel. Ouais. Non, hôtel, ministre. Oulé.
Il fait partie des gens qui tiennent les campements et qui demandent des redevances aux autres.
Non, hôtel.
Forcément, il n'est pas très content parce qu'il perd sa clientèle et son gagne-pain. Bon, il y a un genre de droit d'entrée, et puis ensuite une redevance.
Madame.
Voilà. Vous l'appelez comment ?
Léo. Je ne travaille pas pour une association, c'est une association exclusivement bénévole, ça s'appelle l'école dans la rue. Mais Eduardo, par exemple, il va à l'école ici, à Paris, dans le 18e, ouais.
Et après l'expulsion, il ira toujours ?
Il y a peu de chance, parce que même si l'hôtel n'était pas trop éloigné de l'école où va Eduardo, de toute façon, c'est une solution tellement temporaire que si pendant 7 jours, il peut aller à l'école, quid de la suite, quoi. Ce qui est terrible là-dedans, encore plus avec cette expulsion, disons spécifiquement avec cette expulsion, c'est que c'est des gens qui ont vécu des expulsions à répétition et là, qui sont mobilisés pour monter un projet viable de construction d'habitats modulaires avec des architectes. Donc les habitants sont mobilisés pour amener un projet à la ville de Paris et c'est un projet qui va être complètement aboli, quoi, rendu impossible par le fait que tous les gens vont être séparés partout en Ile-de-France dans des hôtels à 50 km de Paris pour certains. Donc la possibilité de ce projet qui a été mené va être complètement mise à mal, alors qu'il y a une possibilité simple, c'est de faire en sorte de sécuriser le bidonville, parce qu'il ne s'agit pas du tout de dire que c'est des conditions de vie acceptables, ça ne l'est pas du tout, mais l'alternative, ce n'est pas l'expulsion, l'alternative, c'est, et c'est le boulot de la mairie de le faire, c'est sa prérogative de sécuriser le site, d'avoir un accès à l'eau courante, à l'électricité, qui permettent de monter à bien ce projet, pour une situation plus pérenne, de 1 an, 2 ans de logement, vers une insertion durable. Donc on essaye de faire les choses main dans la main, mais tout ça prend du temps, et ce temps, on ne l'a pas. Il suffirait que le cabinet de Mme Hidalgo en vienne à dire ben, « on va trouver une solution, on trouve un terrain temporaire qui appartient à la ville, même si ce n'est pas là où le projet des bâtisseurs de cabanes peut voir le jour, ça peut être une solution temporaire en attendant de trouver les fonds, de mobiliser les fonds pour pouvoir le faire, ils peuvent tout à fait trouver une solution de ce type-là, fût-elle temporaire. Je ne vois pas autrement les choses que comme un manque de courage politique. On nous dit beaucoup de choses quant à la lutte contre la précarité, qui est la grande cause de la mer, mais dans les faits, peu de choses sont faites. Et les moyens sont là. Donc c'est encore plus triste de voir qu'ils ont les moyens de le faire et qu'au bout du compte, ils ne prennent pas les décisions politiques d'aller jusqu'au bout de leurs belles idées.
On est dans la maison des enfants. Il y a des graffitis un peu partout sur le mur. C'est fait en planche de bois. Il y a quelques affiches aussi, quelques chaises. Là, il reste un sapin de Noël aussi dans un coin. Puis au milieu, il y a une raille de l'ancienne voie ferrée. Là, c'est la maison des enfants, c'est ça ?
Ouais, c'est la maison des enfants. Qui a été construite en un temps absolument record par les habitants, qui prouvent leur grande compétence de construction, d'architecte.
Mais on apprend à écrire. Vous savez, madame, qu'on doit avoir un école vrai, pas un école faux. Ça, c'est un faux, ça.
Ça, c'est une fausse école ?
Oui.
Bah, Florine, demain, il va faire les tests au rectorat de Paris, dans le 19e arrondissement. Donc il faut être à 8h pour passer des tests. On y va demain avec Florine et son frère Ben, parce qu'il est en âge d'aller au collège et son frère au lycée. Donc ils vont passer le test, mais ils vont être en attente d'affectation jusqu'à qu'on puisse fournir une domiciliation administrative, ce qui est extrêmement difficile à obtenir, ou une attestation d'hébergement. Mais ces personnes n'étant pas, ne vivant pas dans des hébergements reconnus comme tels, on ne peut pas fournir ce genre d'attestation. Donc en tout cas, voilà, demain matin, on vient à 7h sur le Binonville pour aller avec Florine et son frère Ben et un autre gamin pour aller faire les tests au CASNAV. Et voilà.
Après ça, on fait expulser.
Il y a l'expulsion. Ouais. Mais c'est ce qu'on espère, ce que je te disais Florine tout à l'heure, c'est que même quand tu auras passé les tests, même s'il y a l'expulsion le lendemain, mercredi ou jeudi, on pourra utiliser les tests que tu as passés pour ton inscription quand tu vivras ailleurs, pour pouvoir t'inscrire dans le collège près de là où tu habiteras avec ton frère. Donc c'est pas inutile d'y aller demain. Ça marche ?
Toi, tu veux partir d'ici ou tu veux rester ?
Je sais, mais eux, ils veulent sortir.
Eux, ils veulent que vous partiez.
Oui.
Là, vous rangez tout, ça y est ?
Ouais, on va y aller. Généralement, on arrête à 20h. Là, ça a dépassé un peu. Tu m'aides ? On range ?
Tout le monde a remballé. Non, a remballé. Il y a quand même un enfant qui continue.
Généralement, il y en a qui continuent sur un micro, sur un bout de bois.
Sur un bout de bois à écrire son alphabet. Il y a plein de bruit autour, mais il est très assidu.
Et effectivement, là, vu l'ambiance, c'est assez impressionnant. Ce serait bien qu'il aille au collège. Ce serait vraiment bien. Mais je pense que ça va être difficile en fait. Ça va être très difficile de le suivre. Voilà.
Eh ouais mon frère, pour m'en sortir, chez moi y'a pas d'études. La ferraille c'est ma vie et pour manger c'est la bonne attitude. Car ici tu sais, les temps sont difficiles, je me sens souvent seul. Et puis t'as vu, j'ai pas de travail, j'ai pas d'adresse locale. Donc pour ma part c'est sans social que j'avance solo sur la faille. J'ai bien compris que mon statut allait m'afficher comme un bad. Je réfléchis puisque personne ne veut m'aider. À cette heure-ci c'est marche ou crève, faire des sous, tout voler. J'ai mal au dos, avec le temps j'ai mal aux dents. Je me sens plus que fatigué, mais y'a pas de soins pour les gitans. Et pas de médecin dans le campement. Comment veux-tu qu'on s'en sorte dans ta frange j'appelle à l'aide, pourquoi me montres-tu la porte? Dis. Si dans ta frange j'appelle à l'aide, pourquoi me montres-tu la porte? On nous appelle les résignés, forcés d'habiter dans les camps. Entre la déchette et les champs, on nous a pas laissé la chance d'avoir du temps. On nous a concentrés, regarde autour de moi, c'est ma famille que l'on a déportée. Je n'imaginais pas comme ça la suite de mon histoire. Des larmes entourent mon œil, je grave ce texte en guise de désespoir. Je repense souvent à ma vie d'avant, les miens me manquent aussi. Mais pour les voir, je dois faire des loves ici. Pas question pour ça de profiter de leurs aides à la con. Le but de ces embrouilles était pour moi notre unique solution. De faire ouvrir les yeux sur ceux qui nous ont condamnés. Un peuple doit rester libre, alors crois-moi que c'est pas prêt de s'arrêter. Je suis pas prêt d'oublier tout ça. Mais pour l'instant, stade du temps, évite de parler de mon cas. L'immigration que vous craignez n'est pas celle que je vis. Les images sont trompeuses et les menteurs nous ont tous démontés. Si c'était ça la solution, j'ai nous avoir plus loin. Le retour des gitans sera si fort qu'il ne restera plus rien.
Ouais, on a attendu là-bas.
Comme un bruit qui court.
Bonjour.
Sur France Inter.
On veut négocier avec le préfet, s'il te plaît. On veut parler avec le préfet.
On est dans le 18e arrondissement, on arrive à la mairie du 18e. Et il y a tout un cortège de personnes qui arrivent sur la mairie. Nous ne voulons pas d'hôtel. À la semaine, il y a la police qui est là, une jeep de Vigipirate. Et il y a tout un long cortège de personnes qui arrivent. Bonjour.
On veut pas d'hôtel, pour une semaine après on se trouve aussi dans la rue. On veut plus ça. On veut finir notre projet. La France, il dit qu'il y a le bidonville depuis 25 ans. Nous, on a construit un projet pour faire des petites maisons normales. Et puis, on n'a pas cette chance, ils veulent expulser. Maintenant, on attend le préfet, s'il te plaît, si c'est possible. Sinon, on va rester là, avec les enfants. Ils sont scolarisés dans le 18e. Où on va avec nos enfants? On a des solutions.
Vous appelez comment ?
Je suis Manon Fillonneau du collectif Rome Europe. Ce matin, on est devant la mairie du 18e et il y a une mobilisation incroyable des habitants du bidonville eux-mêmes. Une partie des personnes sont ici, je les connais depuis 4 ans. Elles ont habité à Port-de-la-Villette, puis à Port-de-la-Chapelle, exactement là où elles habitent aujourd'hui. Elles ont ensuite habité à la Courneuve, Saint-Denis, elles sont de retour là, sur la petite ceinture. Elles ont vécu pour certaines 5 expulsions. en 4 ans. Les expulsions permettent de pérenniser les bidonvilles. On voudrait résorber les bidonvilles, mais les expulsions permettent juste de les pérenniser. C'est un cycle sans fin, c'est les mêmes personnes qu'on expulse. On compte à peu près 20 000 personnes en France et c'est absolument ridicule.
Vous appelez comment ?
André Fégelès. Ce matin, les habitants du bidonville, ils ont décidé de manifester devant la mairie du 18e pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec leur expulsion qui est prévue cette semaine. Ils veulent un délai de quelques mois pour pouvoir réaliser un projet qu'ils ont de maison plus solide, plus durable que les bidonvilles. Ils demandent à la mairie de Paris un terrain pour pouvoir se poser un peu et pour pouvoir s'insérer dans la société française. C'est un projet d'autoconstruction en accompagnement avec des architectes qui sont partenaires du projet. Il y a à peu près 250-300 personnes qui veulent participer au projet.
Ils ont monté donc une association qui s'appelle les bâtisseurs de cabanes.
C'est ça, c'est suite à un appel à projet européen. Il est destiné spécifiquement aux Roms, donc à eux, et ils ont accepté très massivement.
Parce qu'il y a donc des fonds européens qui sont disponibles pour apporter des solutions à l'habitat précaire.
C'est ça, c'est exactement ça.
Il va falloir vous entendre pour désigner les personnes qui vont vous représenter à la mairie. Il y aura 4 personnes.
4.
Nous, on va aller chez moi.
1, 2, 3. C'est
4.
Voici les 4 personnes.
Voilà.
Et l'architecte.
Je suis là.
Pardon, excusez-moi.
Vous allez rentrer dans la mairie
Ouais, on va essayer de proposer notre projet, leur montrer que c'est viable, que c'est réaliste. Ils sont volontaires, ils veulent construire eux-mêmes. Nous, on va bien sûr les aider, on va les encadrer. Avec de l'aide de charpentiers, de constructeurs, d'architectes. Et tout ça est démontable ensuite et remontable sur un autre terrain.
C'est un projet qui reviendrait à combien à peu près
hein? C'est un projet qui pourrait revenir à 2 millions d'euros si on loge les 60 familles. En 2014, la région a financé 34 500 nuits d'hôtel. C'est-à-dire un budget de 200 millions d'euros sur l'année 2014 uniquement. Et ça ne fait qu'augmenter. Ça fait 25 ans que ce problème est le même. On chasse les bidonvilles, ils se remettent ailleurs et ainsi de suite. Et on ne résout jamais le problème.
Vous appelez comment ?
Olivier Leclerc.
Alors il y a 7 personnes. Je rentre dans la mairie. Sous les applaudissements de la foule. Avec des gilets jaunes. Et là, les gens montent pour essayer d'accrocher une banderole sur la mairie, non aux expulsions coûteuses et inutiles.
Non, partie.
Vous voulez pas partir ?
Non. J'espère que j'ai arrêté ici. Non, j'ai pas parti parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici, c'est normal, c'est bien comme ça. Je ne vais pas partir comme ça, les enfants.
Vous appelez comment ?
Iember Petru. Spuneți că în continuare noi am nici șacă ca să ținem plațul în picioare, ca să ținem plațul.
Nous demandons au moins une stabilisation temporaire jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Il fait quand même froid, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, il y a des enfants qui vont à l'école. Si on est évacué là cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire ? On est ici, on ne demande pas beaucoup, on se contente de vivre au jour le jour.
Vous vous appelez comment ?
Gruia.
Vous travaillez ou ?
Oh, de doamne, ce qu'on peut se lucrer, je m'en moultumesc cu...
Je trie dans les poubelles, je n'ai pas trouvé de travail, mais ça me suffit pour vivre tous les jours, je ne demande pas beaucoup. Et c'est mieux qu'en Roumanie où je mourrais de faim.
Ici c'est mieux, dans les palais roumains, il n'est pas comme ça.
C'est quand même mieux ici.
Bah oui.
Vous êtes coincé de l'autre côté de la limite.
C'est moi le force de l'ordre. Donc. Je suis Jacques Debeau qui fait le blog Rome Story dans Mediapart. Je travaille d'une manière générale sur les rapports politiques de notre société avec les Roms et les gens du voyage. On annonce depuis un an et demi qu'il y a une trêve hivernale pour les expulsions. Et cette trêve hivernale, le gouvernement lui-même ne la respecte pas. on va expulser, on va mettre ces femmes, ces gosses, ces personnes âgées que vous voyez là, on va les mettre à la rue sans leur offrir de logement, où on va faire quelques petites mesures provisoires pour les cas les plus difficiles, et on va en expulser comme ça 11 000, 12 000, 13 000 par an. C'est les chiffres de 2015, 110 expulsions, hein, donc une centaine à chaque fois. Et ça, c'est quand même un des aspects, si vous voulez, au niveau de la législation. J'ai été assistant parlementaire. J'étais collaborateur pendant 8 ans d'un député. Ces lois qui sont votées par nos députés, et le lendemain, par ce même gouvernement, enfin, par les autorités, elles sont renversées. On a dégagé des majorités, il y a eu des discussions sur la loi Allure extrêmement importantes. On dégage des majorités pour faire passer des lois que l'État lui-même se met au-dessus de la loi et en dehors de la loi. Alors que la solution, comment trouver la solution à ce problème, c'est un vrai problème aussi. Est-ce qu'on va laisser des gens éternellement dans ces cabanes, tout ça, avec toutes les difficultés qu'il y a, hein. Nous les connaissons, difficultés sanitaires, difficultés d'ordre public, sécurité des enfants, sécurité des femmes. Ce sont eux qui souffrent le plus. Ce sont les femmes, les enfants. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 18 000, on dit. Il y en a 5 ou 6 000 qui sont peut-être en transit, ils sont là. Il y en a quelques-uns qui ne veulent pas s'intégrer. On a moins de 10 000 personnes à s'occuper. Et ce, depuis 15 ans, la manière de s'en occuper, c'est de les pousser plus loin. On va les sortir de la porte de Clignancourt, on va les retrouver, je sais pas où, un peu plus loin à Montreuil, ou ainsi de suite, où on va les disperser. Et qu'est-ce qu'on aura fait de plus? Et cela, si vous voulez, nous n'avons pas de discussion. Moi, je suis Rome, moi-même, hein, je suis Tzigane. Je suis un Tzigane de ces Tziganes français qui sont là depuis des siècles. Mon grand-père faisait la guerre de 14 côté français, bien évidemment. Mon père, qui vit toujours, qui a 91 ans, était aussi dans la première division française libre. Mon frère aîné était à la guerre d'Algérie. On ne lui a pas demandé son avis, enfin comme aux autres d'ailleurs, hein, mais c'était obligatoire. Nous sommes absolument français, si vous voulez. Et il n'y a pas de dialogue. Le seul dialogue qu'on ne va pas tarder à voir, ça va être le dialogue entre des manifestants énervés et des CRS un petit peu tendus. Et c'est pas ce dialogue-là, si vous voulez. Il y aurait des médiateurs à mettre en place. Ici, c'est trop tard, le boulot, c'est pas là qui se fait. Cette question Rome, comment on la discute? C'est difficile de loger ces petites dames, ces messieurs, là, tout bronzés, qui sont mes cousins. C'est difficile de les loger quand vous ne logez pas le gars qui bosse chez McDo et qui dort dans sa voiture. Donc, on a une crise du logement derrière. C'est pas que le problème Rome, c'est tout un problème de l'organisation de notre société.
La délégation sort de la mairie.
Deci, o problemă nerezolvată.
Vous étiez à l'intérieur de la mairie?
Da.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit?
Păi, s-o zic la primărie, de exemplu, că...
Pour l'instant, suite à la négociation, l'expulsion sera maintenue et les solutions proposées seront des places d'hôtel. Sauf qu'ils ont l'expérience de ces propositions qui ne sont pas adaptées. À chaque expulsion, on leur propose des nuitées d'hôtel et au final, qui ne règlent pas du tout le problème.
Acum suntem toți în Europa, toate țările care suntem.
Maintenant qu'on est des Européens.
De ce n'avem drepturi?
Pourquoi on n'a pas des droits comme les autres?
Sunt în Franța.
Comme tous les étrangers qui sont en France.
Dar numai noi romii.
Nous les Roms.
Noi n'avem dreptul la nimic.
On a droit à rien.
Două luni de zile până în aprilie.
Encore de plus jusqu'au mois d'avril.
În aprilie de bunăvoie plecăm.
Au mois d'avril on part par nous-mêmes.
Fără să mai vine poliția sau cineva.
Mais sans que la police elle débarque et casse les cabanes et tout en continuité, comment ça va?
Vine și scoală copilul din parc.
À 7 heures, à 8 heures du matin, il vient réveiller les enfants du lit.
Vine și scoală și aruncă afară. Ieșiți!
Et il vous jette dehors et vous dit sortez.
Ce țară e asta?
Quel pays est celui-là?
Nu nimic. Nu v-am cerut la francești de când am venit. N-am cerut
social. On vous a pas demandé aux Français des aides sociales?
Vă rugăm frumos.
On vous demande gentiment.
Cel puțin două luni de zile să ne dea.
Encore deux mois.
On n'est pas fatigué. La lutte continue. On n'est pas fatigué. La lutte continue. On n'est pas fatigué. La lutte continue. On n'est pas fatigué. La lutte continue.
La joue au maire fait un point avec la presse.
C'est juste là-bas derrière, c'est Gérald Briand qui est là.
Donc là, en l'occurrence, on est obligé de faire l'évacuation parce que c'est dangereux, je le répète encore une fois. Il suffit juste d'aller sur place pour se rendre compte de ce qui peut se passer s'il y a un incendie. Bon, après, sur la suite, évidemment, il faut changer de politique. Et nous, on est pour qu'on change de politique sur le traitement de la question Rome en France.
du fait de l'expulsion, est-ce que ça ne va pas remettre en cause tout le projet qu'ils sont en train de construire ?
Non, ça ne va pas remettre, parce que justement, on essaye de trouver le mode d'organisation, de pouvoir travailler sur des hébergements qui nous permettent justement que tout le monde reste en réseau et qu'il y ait des discussions qui se font. Aujourd'hui, voilà, on essaye de travailler sur la durée. Je ne pense pas, et j'espère pas, et je vais tout faire pour qu'on puisse continuer et bien travailler après la mise à l'abri. Pour l'instant, le projet des bâtisseurs de cabanes est sur le bureau de la maire, donc on va s'y engager. Oui, moi, je suis plutôt optimiste sur la suite. Vraiment.
Évacuation ce matin à Paris du bidonville de la Petite Ceinture, ce vaste camp Rome installé sur l'ancienne voie ferrée de la capitale, dans le nord de Paris.
Vous avez besoin d'un coup de main ou au niveau de la police, vous avez besoin de secours ?
Mercredi, il est 8h du matin, le jour commence à se lever. La circulation a repris sur le boulevard Ney. Tous les cars sont partis. Des policiers ferment l'entrée du bidonville. Et on a fait une magnifique rampe d'accès tout en métal, un vrai escalier qui a été monté par une entreprise d'échafaudage. Et l'expulsion du bidonville de la porte de Clignancourt est en cours. Le long des rails. Toutes les petites cabanes ont été abandonnées. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Il y a des policiers un peu partout sur le site.
Désolé madame.
Et avec une carte de presse pour pouvoir aller voir les gens.
Faites le tour de l'autre côté, pas derrière le bus.
Ça va et toi ?
C'était un peu la course, mais en fait il y a plein de gens qui sont partis bien avant. Dans la nuit, ce matin, on est arrivé, la moitié du camp était vidée déjà. Donc là, ça a été très pacifique.
Vous, Louisiane, vous êtes arrivée à quelle heure ?
On est arrivé à 5h30.
Vous avez vu les enfants de...
Ouais, bah, la plupart du coup sont partis dans les bus là, pour les hôtels. Après, on a plein de familles du coup qu'on n'a pas vues, qui sont parties d'eux-mêmes, donc sans solution de relogement, donc ils vont chercher un autre terrain. Donc, on les a même pas vus ce matin. Quoi. Mais là, maintenant, c'est vide, il n'y a plus personne. Là. Tous les CRS, ils ont évacué tout le monde. Là, c'est fermé, on n'a plus le droit d'y accéder, ils ont tout vidé.
Et pourquoi certains ont refusé d'aller dans les hôtels ?
C'est compliqué, là on avait une famille, le mari n'était pas là, donc elle l'attendait, elle ne voulait pas y aller sans lui. Après, c'est des cas particuliers, après à chaque fois, je pense qu'ils ont peur aussi. C'est angoissant hein, de voir les CRS rentrer dans leur maison avec les lampes de poche. Voilà, ils étaient très stressés. Puis je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils aient envie de rester aussi groupés, quoi. Ensemble.
Dans les hôtels, ils se retrouvent éparpillés un peu partout en Île-de-France.
Ouais. J'ai pas trop la foi de parler là ce matin, mais c'est un peu dur là.
Bonjour, Youssef. Vous faites quoi vous ?
Là, j'ai la liste des hôtels pour aller les voir et les suivre. Moi, j'ai pas toute la liste. Là, moi, je vois trois lieux. Vous avez Stain, Gennevilliers. Et j'ai aussi les Ulysse.
Chaque personne a une valise, c'est tout. Là, il y a un bus qui part avec une petite fille qui dit au revoir de la main, avec les gens qui disent au revoir de la main.
Il n'y a plus personne là, c'est bon ?
Bah, oui.
Ok.
Il y en a, plus personne.
Vous êtes arrivé à quelle heure, vous, André, ce matin ?
Ici, je suis arrivé à 6h30. Ouais. Mais ici, tous les bâtisseurs de cabanes, là, les 150, là, ils sont partis.
Ils sont partis,
ouais. Ils sont partis hier soir. Ils ne vont pas dans les hôtels, ils refusent. Ils ne pouvaient absolument pas avoir de revenus de leur récupération de ferraille en étant dans un hôtel. Surtout à 30 km de là.
Ils sont partis où, vous savez ?
Bah là, en ce moment, ils sont sur un autre terrain. Il y a une vingtaine de tentes. Sinon, tous les autres dorment sur des matelas à même le sol, alors qu'il a plu. Voilà. Avec les enfants, avec tout le monde. C'est ça la situation aujourd'hui.
Il y a les cars qui sont là.
Il n'y a rien à voir.
Les bus s'en vont, les uns après les autres. Et du coup, là, j'imagine que le projet pour les bâtisseurs de cabanes s'est mis en suspens, au moins le temps que les gens se retournent. Et...
Non, c'est à peu près exactement le contraire. C'est-à-dire que ceux qui veulent monter ce projet-là, ils y croient encore. Le projet, il n'est pas fini. On va essayer de le développer. Et si les gens ont essayé de se regrouper pour garder le contact, c'est justement pour pouvoir mener le projet à bien. Et c'est de toute manière la seule solution pour sortir des bidonvilles en France, ou en tout cas en Ile-de-France.
Donc vous continuez plus que jamais.
Plus que jamais, oui.
Hier, vendredi 5 février, la majeure partie des bâtisseurs de cabanes, soit 88 personnes qui avaient trouvé refuge sur un terrain à Épinay-sur-Seine, ont de nouveau été évacués. Certains sont partis dormir sous des tentes dans les rues de Paris. La plupart sont allés grossir les rangs d'autres bidonvilles de la région. Malgré leur fatigue extrême, le projet continue.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Salut Antoine, c'est Moustapha. Je vais t'envoyer par mail deux petits textes que j'ai écrits avec Savoir Agir très court. Ça te fera aussi un peu une petite idée si t'as parti le bouquin de ce que j'écris, voilà. N'hésite pas à me rappeler si tu souhaites ou envoyer un texto. Bonne soirée.
Mercredi 13 novembre 2012, 10h06. Alors que j'écris ces lignes, je suis saisi d'effroi. Je suis au chômage depuis juin 2010 et toujours aucune perspective de trouver un emploi. Le temps presse et le temps passe. Mes allocations chômage vont bientôt prendre fin. Plus que quelques mois. Pourtant, je devrais avoir quelques motifs de satisfaction. Je viens d'être diplômé en sociologie, à l'école des hautes études en sciences sociales. Avec distinction, mon neveu. C'est de la bombe. C'est de la balle, c'est michto. Pourtant, c'est pas la forme. Je suis inquiet, très inquiet, car ces motifs de satisfaction ne sont que des motifs de satisfaction. Et les motifs de satisfaction ne sont pas des thunes et des palos ni un contrat de travail. À bientôt 40 piges, ajoutez une ligne à mon CV. Franchement, ça va faire rire le recruteur. Un diplôme d'une grande institution qui a vu passer Pierre Bourdieu. Et moi, au milieu de mes expériences de manutentionnaire, ce n'est pas sérieux.
Salut Antoine, c'est Moustapha. Bah écoute, comme convenu, moi je suis devant le Troquet à l'Arc-en-Ciel. C'est la jonction entre la rue des Fêtes et la rue des Solitaires. Juste en face des bains douches, à la place des fêtes. A tout de suite.
Oui, on va y aller rencontrer Moustapha Bellocine, ce jeune auteur et apprenti sociologue qui raconte dans Précaire, un petit livre qui va sortir la semaine prochaine aux éditions Agone, les aventures picaresques d'un petit soldat réfractaire de l'armée de réserve du Capital. Lui-même, diplômé chômeur et acteur-narrateur du vaste monde du travail précaire, retournant la domination de l'exploitation par l'écriture. Et c'est une première nouvelle publiée dans Le Monde diplomatique en janvier 2015 qui a attiré mon attention sur ce jeune diplômé.
Moi, c'est Moustapha Bellocine. Hein. Je suis né le 18 août 1973, ici, pour le 19e.
Alors, Moustapha Bellocine, c'est ton quartier ici, hein, 19e Place des Fêtes.
Place des Fêtes, c'était ici. Bah, je suis né pas très loin, je suis né rue Clavel, dispensaire de la CAF qui est juste un peu plus bas, là, en bas de la rue des Solitaires. Et là justement, là, on est juste devant les bains douches municipaux de la Place des Fêtes. Hein, bah, c'était là que je venais avec ma mère quand j'étais petit. Parce que on va passer un peu plus tard devant chez moi, rue des Solitaires. Là. Bah, on n'avait pas la douche à la baraque, hein, y avait qu'une seule pièce. Hein, c'est certaines promiscuités, je vais pas faire ma causette. Hein. Figure-toi, alors on habite ici parce qu'à l'époque, mon père, Bah, il a travaillé à l'ORTF et puis après à la SFP. Je sais pas si tu vois, là-bas, il y avait au 36 rue des Alouettes, il y avait la SFP, la Société Française de Production. Hein, il était ouvrier, manutentionnaire là-bas. En fait, mon père était vraiment très vieux. C'était mon papy, hein, presque. Hein. Donc, il est né en 1925. Il est arrivé très, très tôt en France, à la fin des années 30. Donc, vieille famille d'immigrés kabyles. Voilà, mon grand-père était déjà venu en France au début du siècle. Hein, donc, c'était vraiment le poulbo. Hein, c'était déjà un poulbo parisien, mon père. Voilà, et moi, j'étais là. Et voilà, ma baraque. C'est trop marrant parce qu'ils ont tout rénové et c'était sympa. Et j'étais au rez-de-chaussée. Ça se trouve, il y a encore des gens qui habitent que je connaissais. Puis après, on a eu un peu plus grand parce qu'ici, bah, on avait, comme je te disais, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de salle de bain. On dormait dans une pièce, quoi, avec mes parents. Et puis après, bah, grâce à la SFP ou 1% patronal, quoi, on a eu un appart un peu plus grand à Colonel Fabien. En fait, mon père, il faisait des extras en plus de la SFP. Il faisait des extras au Pavillon du Lac. C'était un restaurant qu'il y avait au but de Chaumont. Et il a travaillé là-bas. Il faisait des extras le week-end, la nuit, là, pour construire la maison au pays, quoi. Et c'est vrai que j'ai quand même un peu été éduqué dans le mythe du retour au pays, quoi. Un petit peu à l'époque, enfin, ma génération, hein. C'était un moment, la France, c'est pas trop ton pays. Ouais, c'est vrai que, tu vois, je suis né en France, c'est important, là, aujourd'hui, avec l'histoire de la déchéance de la nationalité. Voilà, moi, j'ai la double nationalité, mais c'est vrai que j'ai jamais tout le temps eu un sentiment d'appartenance à la France. Au départ, j'étais algérien, qu'un jour, les parents, ils bossent, ils travaillent dur en France, c'était pour retourner au pays et construire la maison, même si nous, on était des petits poulbons, on était déjà des Parisiens.
Hein. Mustapha Belhocine, journal d'un précaire.
Ce qu'on ne peut pas taire, il faut l'écrire.
J'adore les spas, le chaud, les bulles pour détendre les muscles. À l'espace aquatique Payron de Paris, il y a un sacré jacuzzi. Plusieurs bassins d'eau chaude. Ce n'est pas les thermes de Budapest, mais c'est gratuit, à condition de justifier de son statut de chômeur. Pas simplement avec sa carte. Il demande une attestation récente. Il faut y penser, plier sa feuille en quatre dans son portefeuille. Des fois, on oublie, on a même envie de payer, de dédaigner ostensiblement ce privilège accordé. Mais j'ai du répondant. Ce jour-là, je n'avais pas de justificatif, mais j'avais un CV. Bonjour madame, une entrée pour la piscine.
Votre carte date de juin 2010, monsieur. Vous avez un justificatif récent ?
Je fais semblant de chercher partout. Désolée madame, je ne le trouve plus. Mais je vous assure que je suis au chômage.
Écoutez monsieur...
Écoutez madame, je suis vraiment au chômage. D'ailleurs, vous recrutez ?
Pardon ?
Je veux savoir si vous recrutez.
Oui, on cherche du monde.
Eh bien, voilà un CV. Quel type de poste ?
Voici votre entrée, monsieur.
À moi les petites bulles du jacuzzi.
Bonjour.
Bonjour. Moi, thé à la menthe, vous avez ?
Bien sûr. Allez. Deux thés à la menthe alors, c'est parfait.
Sucré ou pas ?
Oui, sucré, merci bien.
Et Mustapha Belhocine, aujourd'hui, tu sors un bouquin chez Agone hein, qui s'appelle « Précaire avec un point d'exclamation ».
Un gros point d'exclamation, hein. Point d'exclamation rageux. Moi, en fait, j'ai toujours aimé écrire et donc j'ai toujours incarné sur moi. Donc, toutes mes expériences de travailleurs précaires, etc., j'ai toujours tout consigné sur des carnets. Alors sans réellement savoir ce que j'allais en faire. Hein. Au départ, c'était un côté un peu cathartique aussi parce que ça me faisait du bien. La pénibilité du boulot, la pénibilité aussi d'avoir fait un peu d'études et puis de ne pas être reconnu dans ses compétences, etc., de galérer. Et donc j'écrivais aussi pour montrer aussi parfois à certains patrons que je n'avais pas complètement quitté le champ intellectuel et que voilà. Alors peut-être parfois de manière arrogante, hein, même parfois... Des fois, c'était pas évident aussi pour certains de mes collègues. Mais c'est vrai que j'ai toujours incarné un stylo à la main. Et voilà, j'avais entamé un cursus de sociologie que j'avais abandonné, que j'ai repris à l'école des hautes études.
Ça veut dire que tu as fait tes études en deux temps, quoi.
Ah oui, ça c'est important de le préciser. J'ai commencé une première fois des études que j'ai abandonné à la Sorbonne, René Descartes. Le choix de la Sorbonne n'est pas anodin. Je voulais une reconnaissance, une vraie reconnaissance. Je voulais pas aller à Saint-Denis, je voulais pas aller à Villetaneuse. Je voulais aller à la Sorbonne, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, dans un premier temps. Parce que bon voilà, mon père quand il est décédé, ma mère elle avait une allocation veuvage qui était pas énorme. Et donc il fallait que je bosse quoi. Il fallait que je bosse à fond quoi, pour subvenir aux besoins de la famille. J'étais pas le plus à plaindre, ça va, c'était compliqué. Et j'ai envie de dire, les études de sociologie, plus que d'autres études, faut vraiment un peu un moment se consacrer qu'à ça. Il y a beaucoup de lectures, beaucoup de... Et je n'en foutais pas trop une, j'étais plus à vivre ma vie d'étudiant bourgeois que je n'étais pas. Et je faisais le petit bourgeois, d'ailleurs je ne les revois plus les mecs hein, avec qui j'étais à l'époque, hein, je ne sais pas où ils sont, mais dans des grandes boîtes. Mais c'est vrai que, voilà, dans un coin de ma... Donc j'ai abandonné à un moment, j'ai abandonné les études, je ne pouvais plus, bah, je travaillais. Je ne vais pas mentir, c'était aussi... J'étais un peu velléitaire aussi. Hein. Mais bah, j'ai abandonné, et puis il fallait bien bosser. Et là, j'ai commencé à bosser plein de boulot. Hein, mille sueurs, mille misères, comme disent les vieux du bled. Mais dans un petit coin de ma tête, il y avait toujours ce sentiment de non-accompli avec les études, etc., etc. Et je continuais à écrire, je continuais à m'intéresser à la sociologie, je continuais à lire Bourdieu, je continuais à aller à des colloques. Ce qui a été déterminant quand même dans le passage du carnet, du petit carnet dans le monde ouvrier, en milieu précaire, à la volonté d'avoir une production littéraire, il y a deux choses hein, vraiment. C'est parti quand même d'un séminaire à l'école des hautes études auquel j'assistais de Gérard Mauger. Grand sociologue qui a travaillé avec Pierre Bourdieu. Et moi, j'étais encore ouvrier, c'est-à-dire que j'avais mon bleu de travail dans le coffre de la voiture et puis après, j'allais au séminaire de l'EHESS. C'était d'ailleurs très schizophrène. J'assistais un peu à ce cours aussi pour me sentir appartenir hein, encore au champ intellectuel. Et avec Gérard Mauger, on a sympathisé rapidement. Je lui ai échangé quelques textes, je lui ai montré quelques textes. Ça lui avait plu. Bon, il m'a dit qu'il fallait retravailler. Et puis voilà, c'était une autre façon de faire de la sociologie à partir, je veux dire, du terrain, une observation participante, voilà, avec une écriture réflexive. Et c'est vraiment... Gérard Mauger m'a drôlement soutenu, m'a beaucoup accompagné dans cette première étape. La deuxième rencontre importante, c'est une rencontre littéraire. C'est une rencontre avec John Fante et Bukowski, qu'une copine m'a fait découvrir, en commençant par mon chien stupide. Et après, j'ai lu « Demande à la poussière ». Et c'est très intéressant parce que dans l'édition française de « Demande à la poussière », il y a une préface de Bukowski. Et la préface de Bukowski, c'était ce que je vivais. C'était ce que j'étais. Voilà, il était pas clochard, mais tout comme. Il vivait de petits boulots. Et je m'y suis retrouvé. Moi, je suis rentré dans Fante, dans Bukowski, comme un seul homme, comme on se jette à la mer, hein, sans trop nager. Et c'est vraiment... C'est là où Gérard Mauger m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, parce que j'avais... Même si je ne suis pas tout le temps humble, hein, j'avais pas la prétention d'être j'ai toujours pas la prétention d'être sociologue, même si j'ai un master en sociologie. Hein. C'est là où Gérard Mauger m'a dit, si, c'est de la sociologie aussi, quoi. Pas de raison, parce qu'il y a un regard, il y a une observation, c'est fait de l'intérieur, avec de l'analyse, des rapports de force à l'intérieur de toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé. M'a donné l'opportunité de publier dans la revue Savoir Agir, une revue critique, hein, voilà, héritière des travaux de Bourdieu, quoi. Et donc j'ai régulièrement collaboré avec la revue. Et je suis toujours en contact avec Gérard, hein, qui est vraiment un pote et un ami. Puis il y a un des textes qui a aussi interpellé au monde diplomatique. C'est là que j'ai rencontré Pierre Imbert. Et il m'a aussi offert l'opportunité de publier un texte dans le monde diplomatique. Et puis maintenant je suis chez Zagone.
Alors, ce bouquin, c'est comme des petites nouvelles, hein, c'est ça. C'est à chaque fois des expériences que tu retranscris avec une lecture sociologique hein, et bourdieusienne en général.
Oui, oui. De toute façon, la lecture, la grille d'analyse, elle est bourdieusienne. Hein. Moi, ce qui me plaisait déjà chez Bourdieu, c'était la posture. La posture vis-à-vis des médias, la posture d'intégrité. C'est pas par hasard que je me suis intéressé à Bourdieu. J'ai été bourdieusien le jour où je suis arrivé au collège en 6e et que j'ai vu la classe d'allemand, quoi. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème, quoi. C'était pas la même classe. La classe d'allemand, c'était la classe des meilleurs, quoi. Reproduction des inégalités, reproduction. J'étais en première langue anglaise. Les parents, ils savaient pas. Hein. Les parents qui connaissent les codes, qui savent que, à l'époque, c'est moins le cas maintenant aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, en général, ceux qui faisaient allemand première langue, c'était la sixième. C'était la sixième des bons. Hein. Et donc, voilà. J'étais déjà bourdieusien sans le savoir. Hein. J'ai connu aussi Bourdieu, il faut dire que Bourdieu, je l'ai connu aussi par le biais de mon militantisme pour la culture kabyle. Voilà, à savoir que les premiers travaux de Bourdieu sur la sociologie de l'Algérie, les études ethnographiques kabyles, Bourdieu, c'est quelqu'un d'incontournable avec Abdelmalek Sayad. Voilà, j'étais membre de l'association culturelle berbère à Paris, et c'est là que j'ai déjà rencontré Bourdieu, quoi.
Devant moi, un hall gigantesque. Divisé en cages grillagées sur toute la hauteur. On ne peut pas passer d'une cage à l'autre. Chaque porte est surveillée par un agent de sécurité et seuls les contremaîtres peuvent ouvrir. Je suis devant un tapis roulant. Une boîte tombe du ciel. Un carton arrive et je dois mettre la boîte dans le carton. Au bout de 5 minutes, je suis déjà épuisé. Comment je vais tenir jusqu'à 21h? Comment je vais tenir tout court? Comment peut-on tenir plusieurs mois? À 19h, les machines s'arrêtent. Je ne sentais plus mes jambes ni mes bras. Escorté par les chefs d'équipe, nous marchons d'un pas lent en file indienne. On nous ouvre puis nous regroupe à 50 dans une petite salle crasseuse. Il n'y a pas assez de chaises. De toute façon, je n'aurais pas eu la force de m'asseoir. J'interpelle un mec à côté de moi. Putain, c'est pas possible, ils n'ont pas le droit.
Disposé à marcher en bande et à connaître la fouille. La bande détient le prétexte que cherchent les patrouilles. Disposé à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité. Entre le jeune abonné au musée et celui à l'abri puce, seul l'un des deux portera le poids de son habitus. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais t'oublies un détail, genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases. Ce monde peut cerner d'où je viens et j'en ai pas dit plus. Humain, je reste emprisonné par mes habitus.
On ne peut pas taire, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, et ben ouais, j'ai pris le parti d'écrire. Ce bouquin, c'est des petits textes. Alors, c'est le principe de la nouvelle, c'est une nouvelle parce que c'est un coup de poing, quoi. C'est un uppercut, c'est brut. Voilà, une fois que j'ai fait à peu près 10 000 signes, il n'y a plus rien à cracher, quoi. Donc, après, je sais que c'est un autre boulot. Peut-être que j'aimerais bien faire un autre roman, même s'il y a un fil directeur entre les nouvelles. Hein. Enfin, il y a un fil rouge dans les nouvelles, on va dire c'est des expériences précaires. On va dire, parce que l'objectif, c'est d'avant tout un témoignage un peu brut de décoffrage, des choses qui sont pas comme ça visibles spontanément, des petits détails qui pour moi ne sont pas des détails. Ben souvent on cache les détails pour, voilà, des interstices, des rapports de domination, quoi. À un moment, faut l'écrire, hein. La phrase de Derrida, ce qu'on ne peut pas taire, il faut l'écrire. Mais oui. Moi, j'avais un sentiment plutôt d'appartenance à la classe ouvrière, plus qu'un rapport à un lien ethnique ou quoi que ce soit. Sauf que voilà, notre génération, elle a été un peu sacrifiée. Qu'est-ce qu'on est devenu finalement? Quels sont les postes qui ont été attribués à des gens de mon âge, de ma génération? Regarde, tu vois, je suis toujours précaire. Voilà, les jeunes, bah, ils disent, bah ouais, t'as eu quoi? Bah nous, on a eu quoi? Bah ouais, les gens, ils se renferment sur eux-mêmes aussi un peu. C'est vraiment dommage. Et moi, j'ai la satisfaction de publier, ce qui est pas rien en soi. Tu vois, moi qui n'ai pas beaucoup de livres, à la maison, bah voilà, être publié, me retrouver à la FNAC, je peux te dire, bah, je suis content, tu vois, je suis content, c'est trippant et c'est déjà une fin en soi. Et j'espère que, voilà, j'espère que ça va toucher des gens. J'ai essayé quand même de rassembler plutôt dans ce volume-là les expériences vraiment d'employés lambda, de manutention. C'est chronologique, hein. Ça a commencé par le pays de Mickey, quoi. J'ai bossé à Walt Disney. Après, voilà, j'ai eu aussi des expériences dans le social, des expériences très intéressantes à l'aéroport, comme manutentionnaire, etc. À Pôle emploi. Oui, il y a aussi une expérience à Pôle emploi qui a été particulière parce que je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'humour. On se marre un peu, malgré la misère sociale, malgré la misère du monde, comme disait Bourdieu. J'ai pas mis tous les textes dans ce bouquin, peut-être un deuxième tome, on verra bien, on verra s'il marche. Je suis là, j'étais le bouquin, les gars.
Donc dans les kiosques à partir de vendredi prochain, quoi.
De vendredi prochain, bien au chaud, allez voir les petits libraires, c'est important aussi. Acheter, parce que bah, ça va faire des thunes. Hein. Voilà, après, bon, je suis toujours à peu précaire, même si voilà, faut pas non plus exagérer. Hein. J'ai un salaire, même si je suis instit, contractuel, professeur des écoles contractuelles, on dit maintenant, on dit plus instit, hein. On dit professeur des écoles contractuelles. En Seine-Saint-Denis. Tu vois, j'ose pas encore dire sociologue ou écrivain, même si une des dernières phrases de mon bouquin, je ponctue par « je suis écrivain ».
Et un grand merci à Richard Pinto pour les lectures des extraits de Précaire, nouvelles édifiantes de Mustapha Bellocine, à paraître aux éditions Agone vendredi prochain.
C'était Comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr, où vous pouvez aussi nous laisser des messages et vous abonner au podcast de l'émission. Enfin, n'hésitez pas à faire parcourir le bruit sur les réseaux sociaux, que le bruit court avec le mot dièse, comme un bruit après les infos. Vous retrouverez La Preuve par Z avec Jean-François Zigel, et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h aux États-Unis pour les primaires du New Hampshire, tiraillé entre Donald Trump et Bernie Sanders.